Pourquoi Afrique ? Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Eric Manilakis en direct avec vous à Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 16 février 2017, dont voici d'abord le sommaire. La communauté internationale inquiète de l'impasse politique en RDC sur l'application de l'accord de sortie de crise. Ouverture aujourd'hui à Arusha de la nouvelle session du dialogue interbondé sans le gouvernement. Le Burkina Faso veut juger l'ancien président Blaise Compaoré en exil et qui a obtenu la nationalité ivoirienne. Donald Trump, dans une conférence de presse, il annonce son nouveau choix pour le ministère du Travail et ne manque pas notre page des sports ainsi que la Minute Éco. D'abord, le journal. La communauté internationale est inquiète de l'impasse politique en République démocratique du Congo. D'une seule voix, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie se disent de plus en plus préoccupées par le blocage des discussions sur l'accord sur l'application de l'accord de sortie de crise. Les précisions de Jacques Aristide.
Dans un communiqué commun ce jeudi, les quatre organisations sont d'avis que cette situation porte en elle le risque de saper la volonté politique qui a permis la signature de l'accord le 31 décembre dernier. Jusqu'à maintenant, disent-elles, le dialogue sur les modalités de sa mise en œuvre ne va nulle part. D'où le rappel à toutes les parties prenantes, dont la majorité présidentielle et l'opposition, pour redoubler les efforts afin de parachever promptement les pourparlers en cours. L'accord prévoit la cogestion du pays jusqu'à l'élection d'ici à la fin de l'année d'un successeur au président Joseph Kabila, dont le maintien au pouvoir est à l'origine de la crise. Ce sont précisément les négociations pour le partage des places au gouvernement qui piétinent. La mort de l'opposant historique Étienne Tshisekedi est venue compliquer les choses car elle ouvre la voie à une lutte pour le titre envié de chef de l'opposition.
Merci Jacques. Chez son voisin, la crise burundaise, les efforts pour lancer des pourparlers semblaient aujourd'hui dans une impasse totale. Le médiateur régional, l'ex-président tanzanien Benjamin Mkapa, a invité le gouvernement du Burundi et son opposition à venir discuter à Arusha en Tanzanie pendant 3 jours. Mais le gouvernement a refusé de discuter avec l'opposition. Pierre Claver est sur place à Arusha.
La première journée a été consacrée aux seules consultations du médiateur avec 3 anciens chefs d'État burundais ainsi que l'ombudsman du pays. D'autres délégations, notamment de l'opposition interne et externe, n'ont pas eu l'occasion de se retrouver sur la table des négociations. Le facilitateur de la crise burundaise, Benjamin Mkapa, les a indiqué qu'il faudra attendre le parti au pouvoir et la plateforme de l'opposition radicale qui sont en cours de route, selon le bureau de la médiation. Dans son bref discours d'au moins de 2 minutes, Mkapa a annoncé les points forts qui seront abordés. Il s'agit de l'assainissement du climat politique, le retour des réfugiés, la crise économique, les relations diplomatiques et les sanctions économiques qui pèsent sur Bujumbura. À l'absence du gouvernement burundais, le facilitateur a annoncé qu'il n'avait pas invité le gouvernement du Burundi en tant que tel. La séance de ce vendredi s'annonce dure. Selon les délégations, il s'agira d'une rencontre entre le parti au pouvoir et son ennemi juré, le Sénarède, apprend-on de sources sûres. Pierre Clavinyunguru, depuis Arusha, pour la Voix de l'Amérique.
Le Parlement nigérien tente de dissiper des rumeurs sur la santé du président Muhammadu Buhari. Les présidents du Sénat et de la Chambre des représentants qui lui ont rendu visite dans sa résidence diplomatique dans la capitale anglaise affirmaient que M. Buhari est en bonne santé. Il séjourne à Londres depuis près d'un mois pour des examens médicaux. Rapatriement aujourd'hui à Dakar de quelques 170 migrants sénégalais. Ils se trouvaient dans des centres de rétention à Tripoli dans le cadre d'un programme de rapatriement supervisé par l'Organisation internationale pour les migrations. Mardi, près de 200 migrants nigériens avaient déjà été rapatriés. Et condamnation aujourd'hui d'un député sénégalais pour coups et blessures volontaires lors des violences politiques meurtrières en 2011 à Dakar. par Télémédias a écopé 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. Dissident de la majorité présidentielle, il est reparti libre du tribunal correctionnel de Dakar, car ayant déjà purgé les 6 mois en détention préventive. Par contre, le tribunal ne s'est pas prononcé sur une éventuelle privation des droits civiques qui interdirait aux députés de se présenter aux élections législatives fixées au 30 juillet 2017. Le vice-président angolais, Manuel Vicente, est accusé de corruption, de blanchiment d'argent et usage du faux par la justice portugaise. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le procureur général à Lisbonne, n'est-ce pas, Salwa Jafari?
En somme, Vicente est accusé d'avoir versé des pots de vin à un magistrat portugais pour qu'il penche en sa faveur dans 2 investigations du temps où il était directeur général de Sonangol, la société pétrolière nationale. Le magistrat en question n'est autre que l'avocat de Vicente et son représentant au Portugal. Il est également sur le banc des accusés dans le cadre de l'opération appelée FIS. Les enquêteurs accusent Vicente d'avoir versé 808 000 dollars à Orlando Figueira en prison depuis 1 an pour abandonner 2 enquêtes sur le blanchiment de capitaux et des investissements angolais au Portugal. Les autorités ont saisi environ 540 000 dollars du magistrat. Ces montants ont été trouvés dans des banques en Andorre. Manuel Vicente occupe le fauteuil de la vice-présidence angolaise depuis 2012.
Salwa Jafari. L'ONU a prévenu aujourd'hui que l'invasion de chenilles légionnaires qui détruit déjà les plantations de céréales de plusieurs pays d'Afrique australe pourrait rapidement se propager à toute la région, menaçant la sécurité alimentaire et le commerce. Le chef du gouvernement d'Union libyen, Fayez al-Sarraj, regrette la rencontre manquée avec son rival, le maréchal Khalifa Haftar, qui a refusé de le voir sans justification ou raison. Cette rencontre devait se tenir au Caire pour marquer un début de règlement du conflit en Libye. Mercredi, le médiateur égyptien a annoncé un accord entre les deux camps rivaux sur la formation d'un comité conjoint chargé de préparer des amendements à l'accord du Maroc. Celui-ci ne prévoyait aucun rôle pour M. Haftar. Pourtant, il s'est imposé comme interlocuteur incontournable après le contrôle des principaux terminaux pétroliers dans l'Est.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, c'est ce jeudi que l'on devrait connaître le nouveau ministre du Travail du président américain Donald Trump après la décision du précédent candidat de retirer son dossier faute de soutien au Congrès. Idriss Fall.
Voilà, pour le moment, Donald Trump doit tenir sa conférence de presse d'un moment à l'autre. On nous avait dit midi et demi de Washington, et là, il est bientôt midi 40. À cette conférence de presse, il doit annoncer la nomination du nouveau ministre de Travail après le retrait hier de son précédent candidat. Il n'a pas manqué de préciser que son choix est une star et une personne fabuleuse. Des indiscrétions laissent circuler le nom d'Alexandre Acosta, qui vient de Miami, qui était le doyen du collège de droit à Miami. Et il aura aussi un travail à condition qu'il soit lui-même confirmé. Mais Andrew Putz, qui l'a remplacé hier, vient en fait du service privé, PDG du groupe de restauration rapide, a été nommé par Trump pour ce poste, mais a retiré sa candidature, plombée par des révélations sur d'anciens épisodes de sa vie personnelle. Il est le seul membre du futur gouvernement Trump à être ainsi tombé. Un nouveau revers pour le président républicain qui n'a toujours pas toute son équipe complète en place après la démission forcée de son conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn et les révélations sur les contacts répétés entre ses proches et le renseignement russe dans la campagne électorale. Donc nous reviendrons sur la nomination de Donald Trump dans nos prochaines éditions.
Merci Idriss Fall. Tant que nous parlons des États-Unis, le secrétaire américain à la défense James Mattis a déclaré aujourd'hui à Bruxelles que les États-Unis n'envisagent pas maintenant de collaborer avec la Russie au plan militaire. Toutefois, M. Mattis a affirmé que les deux pays auront un dialogue politique. Il a donné des assurances sur l'engagement des États-Unis auprès de l'OTAN, soi-disant impressionné par la force du lien transatlantique. Proche-Orient, la Ligue arabe, puis la solution à 2 États mise à mal par le président américain Donald Trump. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a réaffirmé aujourd'hui que ce conflit nécessite une paix juste et globale, fondée sur une solution à deux États avec un État palestinien indépendant. Il a rencontré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au Caire. Celui-ci a également contredit la position de l'administration Trump hier. L'Iran a accusé aujourd'hui Israël de constituer la plus grande menace pour la paix mondiale. Cette accusation intervient au lendemain des attaques des dirigeants américains et israéliens contre Téhéran. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington a mis en garde contre la menace des ambitions nucléaires de l'Iran. Il a dénoncé de nouveau l'accord sur le programme nucléaire iranien conclu avec les grandes puissances en 2015. Bagdad, frappée aujourd'hui par l'attaque la plus meurtrière depuis le début de l'année. Près de 40 personnes sont mortes dans un attentat à la voiture piégée. L'État islamique a revendiqué cette attaque. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Muniteco avec Morgane Guiriac.
En Côte d'Ivoire, les producteurs de cacao ont entamé une grève illimitée. Les cours du cacao ont chuté de 25% en 4 mois et les planteurs ont du mal à exporter leur production. Ils exhortent donc le gouvernement à débloquer un fonds de réserve qui est prévu en cas de crise. En Côte d'Ivoire toujours, la production de noix de cajou a baissé de 7,5% lors de la campagne 2016. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ivoirien qui a décidé d'augmenter le prix d'achat aux producteurs. La Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial de noix de cajou. Et enfin, Congo-Brazzaville, la start-up africaine JT Agro vient d'inaugurer sa première exploitation maraîchère à proximité de Pointe-Noire, rapporte Jeune Afrique.
Et sans transition, nous enchaînons avec la page sportive Nicolas Pinot ce soir. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric.
En football d'abord, reprise de la Linafoot au Congo.
Oui, les autorités congolaises ont annoncé à Kinshasa la reprise du championnat de football de première division 2 mois après sa suspension pour des raisons de sécurité. Initialement prévue pour une durée 1 mois, la décision était officiellement justifiée par des craintes d'envahissement de terrain ou de jets de pierre pendant les matchs. Pourtant, le match qui était programmé hier au Stade des Martyrs entre Shark et le FC Renaissance, comptant pour la 11e journée de la zone ouest de la division 1, a été renvoyé à une date ultérieure. Dans la zone est, dans le cadre de la 9e journée, ce jeudi, 2 rencontres entre Dauphin Noir et Bukavu Dawa au stade des volcans de Brière à Goma. Et dans le même groupe, le CS Makiso jouera le DC Virunga au stade Lumumba de Kisangani.
Et Nico, c'est quoi cette nouvelle soirée étoilée en Ligue des Champions en Europe?
Le Bayern de Munich fait exploser Arsenal en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, 5 buts à 1. C'était hier, mercredi à l'Allianz Arena. Les Gunners n'ont vu le jour que 30 minutes avant de sombrer. Robben avait ouvert le score dès la 11e minute. Sanchez avait réduit le score à la 30e minute. Et au retour des vestiaires, les Bavarois punissent les Anglais. Lewandowski, puis Alcantara par 2 fois. Et enfin, Müller présente une facture salée, 5 buts à 1. Un score sans appel et logiquement, les Munichois sont quasiment en quart de finale avant le match retour à Londres.
Le Real a eu plus de mal, mais l'a quand même emporté face à Naples.
Mené dès les premières minutes à Santiago Bernabéu, les tenants du titre égalisent par Benzema. Puis Kroos et Casemiro permettent au Real Madrid d'envisager le match retour en Italie avec confiance.
Eh bien, la FIFA contre-attaque.
La Fédération internationale de football affirme qu'il n'y a aucune preuve d'effet négatif suite à des coups de tête ou à divers chocs au lendemain d'une étude sur les risques plus élevés pour les footballeurs professionnels de contracter une maladie du cerveau. En effet, l'étude publiée hier dans la revue Acta Neuropathologica a été faite sur 14 anciens footballeurs, dont 13 professionnels atteints de démence et hospitalisés à Swansea entre 1980 et 2010.
Et pour terminer, Nico, NBA, championnat de basketball nord-américain.
Il n'a fallu que 29 minutes à Westbrook pour s'offrir son 27e triple-double de la saison face aux Knicks de New York. Victoire 116-105. Du haut de son 1m75, Isaiah Thomas est en train de réécrire l'histoire des Celtics, la franchise la plus titrée de la NBA. Victoire contre Philadelphie 116-108. Thomas a marqué 33 points et dépassé pour le 40e match de suite le seuil des 20 points, égalant ainsi un vieux record de 45 ans. LeBron James a marqué 31 points lors de la victoire de Cleveland devant Indiana, 113-104. Enfin, Golden State a renoué avec la victoire à Sacramento, 109-86.
Et c'est tout pour les sports. Merci Nico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manirakiza, pour passer à nos dossiers du jour. La nouvelle session du dialogue inter-burundais a commencé aujourd'hui à Arusha, en Tanzanie, par des consultations entre le médiateur Benjamin Mkapa et des anciens chefs d'État burundais. Mais rien ne garantit la reprise des négociations sans la présence du gouvernement. Les autorités de Bujumbura ont en effet refusé hier soir d'y participer. Elles contestent la présence de certains participants de l'opposition CNRED et celle du conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU, Jamal Ben Omar. Pour une réaction, VOA Afrique a joint le porte-parole du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi, Karine Kaneza.
Dire que nous sommes surpris, peut-être pas, étant donné le comportement que le régime de Bujumbura a affiché depuis le début de cette crise. C'est vraiment dommage. C'est triste de voir quand même une réaction pareille au regard de la situation qui prévaut au Burundi. Donc nous nous rappelons quand même qu'il y a 500 000 réfugiés dans la région. Nous avons une famine qui ravage tout le pays. Nous avons des disparitions journalières. C'est une catastrophe. Et au milieu de tout ça, refuser de participer à un processus qui aurait pu être une tentative de résolution de cette crise montre l'ampleur du radicalisme du régime de Bujumbura et de son refus de participer dans tout processus pacifique de résolution de la crise.
Le gouvernement ne reconnaît pas la plateforme CNRED qui regroupe la quasi-totalité de l'opposition, mais aussi il dit qu'il ne peut pas s'asseoir avec certains membres qui sont recherchés par la justice de Bujumbura.
Le régime de Bujumbura reste cohérent dans les prétextes qu'il avance. Rappelons-nous quand même que c'est le même régime qui a menacé en 2015 de tirer sur 5000 hommes qui devaient être envoyé par l'Union africaine comme force de protection du citoyen burundais. C'est le même régime qui, depuis le début de la crise, a avancé des prétextes innombrables sur la participation, sur la non-participation de tel ou tel individu, de tel ou tel pays, que ce soit des pays occidentaux, que ce soit des pays de la région. Donc rien de surprenant, c'est un prétexte de plus dans la panoplie d'excuses qu'ils ont à leur disposition.
Est-ce que votre mouvement a été invité à Arusha ? Les femmes sont-elles représentées ?
Non, elles ne sont pas représentées, nous n'avons pas été invitées et j'aimerais d'ailleurs faire remarquer que dans un groupe d'une trentaine d'invités, il n'y a que deux femmes qui ont été invitées. Nous pensons que cela montre l'ampleur du problème aussi, de la façon avec laquelle ces négociations sont organisées. Rappelons-nous quand même que les femmes constituent 51% de la population, que nous sommes celles qui sont souvent victimes, si pas toujours victimes des conflits qui surgissent dans nos pays, en particulier le Burundi. Ce sont les femmes qui enterrent leurs maris, leurs fils, qui pansent les blessures de leurs filles. Et cela fait peur. Cela devrait faire peur et cela devrait interpeller la région par rapport à la pertinence de leurs réponses et de leurs actions sur cette crise.
Karine Kaneza à Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'insertion au Cameroun n'est pas aisée pour tous. Détenteur ou pas de la carte de réfugié, qu'ils soient en âge de travailler, étudiants ou artistes, ces jeunes venus pour certains de la Centrafrique doivent fournir beaucoup d'efforts pour rejoindre les deux bouts. Une histoire de survie au quotidien, le constat de notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jules Ntap.
La voix est celle de Pico, un jeune comédien conteur centrafricain, ex-résident du quartier Boirame à Bangui. Arrivé au Cameroun en septembre 2013 du fait de la guerre dans son pays, il est aujourd'hui hébergé par un expatrié français et gagne désormais sa vie au prix de son talent de comédien-conteur.
en tant que comédien, théâtre que je fais, et j'enseigne aussi à l'école. L'art me donne un peu, à l'école aussi ça me donne un peu. Parfois du jour aujourd'hui ça ne paye pas, et demain quelqu'un me trouve et dit « Ah, c'est toi l'artiste là ?» Il me donne 30 000, 50 000.
Quant à Syriac, c'est son effort intellectuel qui lui a valu le statut d'étudiant réfugié centrafricain. Il est aujourd'hui boursier du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés du Cameroun.
On nous a soumis à un test de niveau. Nous étions plus de 200 et quelques réfugiés pour 10 places. On nous a exigé pour qu'on maintienne dans le programme de la bourse, il va falloir qu'on trouve une moyenne de 12 à la fin de notre formation chaque année.
La bourse en question lui donne droit à 70 000 francs CFA par mois et 650 000 francs CFA par an pour ses études. Syriac ne saurait demander plus, tout comme Michael, un autre jeune centrafricain, 22 ans, lui aussi réfugié de guerre. C'est une église évangélique qui est désormais sa raison de vivre au Cameroun.
L'église, ça fait déjà un an que je travaille dans cette église, va raconter Temple des Nations. Je suis assistant monteur, donc ça m'aide aussi à assumer certaines responsabilités que moi j'assume.
L'insertion des jeunes centrafricains au Cameroun concerne aussi Socrate, l'ancien responsable multimédia de 2008 à 2012 de la cellule de presse du président François Bozizé, a dû se reconvertir ailleurs.
Présentement au Cameroun, j'ai mon petit structure audiovisuelle. Nous faisons les reportages audiovisuels, les clips vidéo. J'ai créé une radio web.
Cependant, Yaoundé n'est pas favorable à tous les jeunes réfugiés centrafricains. Trésor et trois de ses compatriotes partagent les mêmes souffrances d'une vie à la belle étoile au Cameroun.
Il faut que je vais marcher ou trouver même une petite job qui peut me donner même 1000 francs.
Tu dors où?
Je dors seulement dehors.
Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cameroun, près de 260 000 réfugiés centrafricains sont sur le territoire camerounais. Officieusement, il serait un peu plus, car de nombreux centrafricains ayant fui la guerre pour venir au Cameroun ne sont pas enregistrés au HCR, gonflant ainsi la liste des candidats à la survie au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Ici à Washington, le président Donald Trump a déclaré hier en recevant le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que la solution à deux États n'était pas la seule possible pour régler le conflit israélo-palestinien. Depuis des décennies, les différentes administrations républicaines et démocrates qui se sont succédées ont toujours défendu cette solution dite des deux États, un État palestinien et un État israélien vivant côte à côte et dans la paix. Idriss Fall a recueilli la réaction de Bassel Tarjeman, journaliste palestinien basé à Tunis.
La paix entre les Palestiniens et les Israéliens depuis l'année 2000, c'est un rêve qui n'a jamais existé. C'est un petit mensonge pour passer le temps. Maintenant, c'est l'heure de la vérité. Je trouve que c'est nécessaire que les Palestiniens donnent les clés pour les Israéliens et disent merci beaucoup. C'est la fin de l'autorité palestinienne. Le modèle maintenant, on va y aller pour un État pour deux peuples. Mais est-ce que ce modèle va être un modèle d'apartheid ou bien un État démocratique? Les Israéliens, pour le moment, avec le gouvernement de droite de Netanyahu, commencent d'établir un système d'apartheid dans le territoire palestinien.
Mais Donald Trump a dit quand même qu'il va laisser les deux parties trouver la solution.
Il n'y a pas de solution. Les Israéliens, ils n'ont jamais été sérieux pour faire la paix avec la Palestine. Il faut donner les clés pour les Israéliens. Alors Israël va assumer ses responsabilités et prendre les clés et prendre la solution dans ses mains. Ce n'est pas l'affaire des Palestiniens, c'est les affaires des Israéliens qui refusent de faire la paix.
Et pourtant, Donald Trump a quand même demandé à Israël de freiner la construction de logements juifs dans les territoires palestiniens.
C'est de n'importe quoi. C'est juste pour les médias, ce n'est pas sérieux. La solution des États, ce n'est pas les Palestiniens ni les Israéliens parlaient de ça. C'est le propos américain depuis le président Bill Clinton. Maintenant, les Américains ne vont pas, c'est leur plan de droit. Mais c'est leurs alliés, les Israéliens, assument la responsabilité. Israël peut faire un seul État pour deux peuples. On s'arrête là.
Pour enfoncer le clou, Donald Trump a dit qu'il réfléchit à transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem.
Ce n'est pas une surprise. Le président Trump, elle est très claire dans sa proposition. Elle va mettre fin avec tout ce qu'il dit. Elle ne veut pas déclarer la guerre contre les musulmans ou contre les Palestiniens. Non, elle va mettre fin, on peut dire maintenant, adieu, le processus de paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Elle va mettre l'ambassade à Jérusalem et elle ne va pas faire deux États. Alors, elle va faire un seul État pour deux peuples. Je suis tellement content qu'on va vivre avec les Israéliens dans un seul État. Il n'y a pas de problème. Israël, c'est un État démocratique. Alors, elle peut respecter les Palestiniens et accepter les Palestiniens comme des citoyens de l'État d'Israël et vivre ensemble pour l'avenir.
Mais le Hamas ne va jamais accepter ça.
Hamas, elle n'est pas de rôle essentiel dans ce processus. Comme il y a un seul État, le peuple palestinien va dire oui pour vivre avec les Israéliens dans un seul État. Il n'y a pas de problème sur ça. Que les gens, pour attendre un paix qui ne vient jamais, alors un seul État dans le territoire de 48, dans le West Bank et au Gaza. Ça fait 70 ans, on vit ce malheur et on n'a pas de résultat.
Bassel Tarjaman, journaliste palestinien basé à Tunis.
Dans Washington Forum ce jeudi, on revient sur le décret anti-immigration, le bras de fer entre Donald Trump et la justice fédérale, un texte contesté puis bloqué par un juge de l'État de Washington, mais qui génère encore de la confusion. Qui vise-t-il? Quels sont les recours possibles? Donald Trump qui fait appel peut-il passer en force? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mousseau et ses invités.
À l'occasion de la journée de boycott lancée par les restaurants africains de la côte est des États-Unis, les immigrés africains ont répondu à l'appel en choisissant de ne pas se rendre dans les commerces et restaurants pour montrer l'impact et la contribution de l'immigration à l'économie américaine. Pour comprendre cette initiative, Dili Diko a joint une restauratrice sénégalaise de New York ayant préféré garder l'anonymat.
Les immigrés qui n'ont pas des papiers, ils ont peur. Celles qui ont des papiers même sont peur. Parce que si les immigrés ne travaillent pas, l'Amérique ne sera pas bien. Parce que ici, c'est les immigrés qui travaillent. Parce que ce qu'elle fait là, c'est pas bon pour l'État, c'est pas bon pour les personnes. Hein? Chaque fois, les gens sont peur, les élèves ne peuvent pas partir à l'école. Les gens sont peur, les gens ne sortent pas. Tout ça, là, c'est pas bon pour l'État. Parce que l'argent devait circuler. C'est ça qui est bon pour le peuple. C'est pour ça que les gens sont très peur.
Selon vous, à quel point les immigrants participent-ils à l'économie américaine?
C'est les immigrés qui font tout. Tous les travaux durs, c'est les immigrés qui font ça. Il n'y a pas un Américain blanc qui fait les travaux durs, là. C'est les immigrés qui viennent travailler, se battre. Tous les travaux qu'on fait, c'est les immigrés qui font ça. Tous les travaux que tu vois ici, c'est les immigrés qui font ça. C'est les immigrés qui se battent pour l'État. Si les immigrés ne travaillent pas, c'est pas bon pour l'État. Ils achètent beaucoup de choses et ils dépensent. Tu as vu, les avions n'est pas venus. Les gens qui venaient en Afrique, qui venaient payer des marchandises ici, ne sont pas venus. C'est pas bon.
Quelles sont vos craintes à ce jour? Qu'est-ce qui vous fait peur?
Je n'ai pas peur parce que si on nous cherche, on va retourner dans notre pays. Mais ce n'est pas bon. Comme tout le monde est fermé, on va fermer. C'est ça. Et les étudiants sont très fatigués ici. Ils sont très fatigués. On n'a jamais vu un président comme ça qui vient traumatiser les gens ici. C'est la première fois en Amérique.
Une restauratrice sénégalaise jointe par Dili Diko à New York.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Ainsi va le monde aujourd'hui. VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition de 17h30, temps universel. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Eric Manilakiza à Washington vous retrouve à 19h30, temps universel, pour la prochaine édition. Bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
VOA Afrique.